Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Nolé, oblé, whisky, cartoula, mauditoris, émeré.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunia sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte 100 balles.
Quoi, mémé? Non, 20 euros en fait. Allez. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps pour un moustique de parcourir la distance de l'Arc de Triomphe jusqu'à la pyramide du Louvre. C'est le temps pour le budget du ministère de la Culture d'être grignoté de 762 000 euros et celui du ministère de la Justice d'1 700 000 euros en frais de fonctionnement divers et de construction. Ça, c'est pour tous ceux qui, dans les infos, se plaignent en disant « il n'y a pas assez de sous pour les... » Mais c'est aussi une heure et demie, c'est le temps que le PDG d'Assaut Armement gagne 8 000 euros et que Kylian Mbappé en gagne 12 000 et qu'un instit en poste en gagne 6. C'est le temps pour qu'il y ait 0,17 morts dans le cadre du BTP. Une heure et demie ensemble, c'est le temps pour que l'ARCOM force France Inter et France Info à citer deux fois le nom du Rassemblement National parce que France Inter et France Info sont trop à gauche suivant l'ARCOM. C'est le temps que 2000 poussins mâles soient broyés ou gazés car inutiles. Une heure et demie ensemble, c'est le temps que 102 tonnes de vêtements soient jetées en France, dont 3 tonnes de vêtements qui étaient même neufs. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour, et quelques Je me souviens de du vin, du H, du vin, c'est le vin H20, et de l'actualité, c'est vous qui en vivez, c'est nous qui en vivons. Je me souviens qu'au fur et à mesure de la crise du Covid, on a vu défiler l'absence de masques, les masques bricolés avec du tissu et des bandes de tissu élastique, les FFP2 et autres formats, les masques chirurgicaux trois plis d'abord bleus, puis de multiples couleurs, y compris certains dégradés et même LGBT, mais étaient-ils lavables, et même des classieux masques noirs, puis des masques originaux avec des mufles d'animaux, des grosses lèvres, des Santa Muerta et des slogans. Je me souviens de Laurent Fabius, responsable mais pas coupable dans l'affaire du sang contaminé. Je me souviens d'avoir simultanément entendu parler à la radio de la ville de Baalbek dans la vallée de la Beka lors d'un raid de l'armée française pendant la guerre au Liban en 1983 et lu concomitamment dans La recherche du temps perdu le nom de la ville de Baalbek avec un seul A, station balnéaire décrite par Proust en lieu et place de Cabourg. Je me souviens de la mort d'Habib Kremzi, poignardé et jeté du train Paris-Vintimille par 3 légionnaires en 1983. Je me souviens que la mère Tellier, à l'entrée du village de mes grands-parents, a eu le même chien bâtard au poil roux pendant 50 ans. S'il venait à mourir ou disparaître, elle en retrouvait un sous 3 ou 4 jours auquel elle donnait le même nom de filou, la même gamelle et la niche enclavée dans la grange. Soit dit en passant, je trouve quand même étrange qu'on l'appelât la mère Tellier alors qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Je me souviens que le député qui avait déposé une question à l'Assemblée sur le risque de fraude aux examens et concours à cause des nouvelles technologies a été démis de ses fonctions par le Conseil constitutionnel pour fraude dans ses comptes de campagne. Je crois me souvenir que la consigne pour un litre étoilé 20 tables, Préfontaine et autres, étaient de 2 francs. Je me souviens des petites annonces de Los Amuel. Boucherie, chevaline, recherche, chevaux désespérés. Ne pas écrire, se présenter, 53 rue Lafayette. À vendre, porte-monnaie étanche pour argent liquide. Sportif possédant un tandem pour une personne, l'échangerait contre bicyclette à 2 places. caméléon domestique fatigué, échangerait coussin écossais contre couverture unie. Si un ruban cherche l'âme sœur pour débiter des petits riens. Je ne me souviens pas d'avoir croisé Jérôme Chaudron de Courcelles, le frère de Bernadette, dans les logements sociaux du Marais, à côté de mon lycée. Je me souviens que Jeannette ne doit pas pleurer, même si on la pendouilla avec Pierre, son amoureux, dans la chanson. Je me souviens que Vaquette m'avait dit « L'avantage du passage à l'euro et de la division par 6,57, c'est qu'il y aura moins de millionnaires. » Mais il avait ajouté « Mais les milliardaires, il y en aura toujours autant. » Je me souviens, chaque fois que je joue aux cartes avec mes enfants, je me souviens de la maison de mes parents. Le vieux jeu de cartes récupéré dans un tiroir de leur maison en a gardé l'odeur. Un mélange d'humidité, de pain qui cuit, de pommes stockées au grenier, de terre après la pluie, de vieux chats. Et fort heureusement, il n'a pas gardé l'odeur médicamenteuse et javelisée de la table de chevet de l'hôpital où je l'avais redéposée quelques mois pour y jouer quand j'allais rendre visite à ma mère.
À la lueur d'une applique, un chinois un peu myope sur son boulier magique fait les comptes de l'échoppe dans son arrière-boutique. Une anglaise démoniaque glisse un peu d'arsenic sur la colle des enveloppes, les liés droits magnifiques. Sous la pluie, dans les flaques, marque un but héroïque, mais le puc contre-attaque et au théâtre antique. En public, mais sans claque, des cabots dramatiques loupent la fin d'Andromaque et chacun dans sa bulle. Minuscule, gesticule et partout les pendules marquent un temps différent penché sur le zodiaque. Un indien ascétique voit les signes prophétiques du temps qui se détraque à coups d'épreuve d'un boc. Un raté pathétique se moque d'un alcoolique qui débloque sur l'époque un ancien grand comique. Dans une boîte à la mode croise un homme politique très loin aux antipodes et le vieux porc-épic. Solitaire, équivoque, fait de l'œil à la bique qui reluque le phoque et chacun dans sa bulle. Minuscule, gesticule et partout les pendules marquent un temps différent à l'hôpital public. Un interne astigmate opère la cataracte de l'opticien presbyte dans la brousse en Afrique. Un moustique nyctalopique, un lion phlegmatique qui croque une antilope des savants soviétiques. Fabrique un télescope pour voir en Amérique l'usine de microscope et derrière la vitrine. L'acrobate qui culbute jamais ne catapulte le lapin qui patine et chacun dans sa bulle. Minuscule, gesticule et partout les pendules marquent un temps différent dans une boîte à musique. Rendez-vous interlope, un sadique misanthrope brague une garce diabolique au fond d'une banque opaque. L'employé noir astique, le telex laconique qui annonce un grand crack à l'ité en clinique. Souffrant de l'humérus, un psychiatre psychotique en boîte des poupées russes et dans sa cage au cirque. Au milieu des baraques, un vieux macaque mastique, un papier bleu qui craque et chacun dans sa bulle. Minuscule, gesticule et partout les pendules marquent un temps différent. À la lune, un chinois, un peu myope sur son bout.
Gilbert Lafaille avec la balade des pendules. La balade des pendules, ça avait été un livre. Dans ce magazine de Sous-de-Seine, on parle de chansons, on parle de livres, on parle de théâtre. C'était un livre qui reprenait les textes des chansons de Gilbert Lafaille. Et là, tout récemment, comme je vous l'ai dit les semaines précédentes, Gilbert Lafaille a sorti un livre d'une pièce de théâtre qui n'est pas encore jouée, puisque si vous êtes intéressé, vous pouvez commander Mardi Gras aux éditions Ex Aequo de Gilbert Lafaille pour avoir une petite idée. Évidemment, si j'étais à la mise en scène, je dirais voilà, les rôles, Madame Rotary. Gisèle, vous êtes l'amiral, une hôtesse, monsieur Rotary, ça j'allais dire une hôtesse, madame Rotary, remarquable. La fille du logis, huhu, madame Rotary, hihi, l'amiral, un cordon bleu. La bonne, filet de porc à l'orange, gigot de chevreuil archiduc. Madame Rotary a un maître queue. La fée du logis, huhu, allons, servez-vous, c'est chaud, sans chichi. La bonne, girole à la crème, grive flambée, oie farcie à l'allemande. Elle attend un ordre, la fée du logis lui fait signe de s'éclipser. Monsieur Rotary, c'est trop. Madame la fée du logis, mais non, voyons. À l'amiral, vous avez manqué quelque chose. Le professeur nous a fait un cours sur Christophe Colomb, Champollion, les insectes, c'est passionnant. Madame Rotary, nous avons appris qu'en Égypte, les anthropophages peuvent manger jusqu'à 50 000 fourmis. Et, non, les Indiens d'Amérique, mais que les araignées... La fée du logis, géante. Madame Rotary, oui, les araignées géantes... L'amiral, je n'aime pas beaucoup ces bestioles, l'humidité, la moiteur, ça rend fou. Les pays chauds, les mygales, les scolopendres, les mantes religieuses. Le professeur vivement, ah non, je m'inscris en faux, l'amiral, que le professeur, catégoriquement, l'amiante n'est pas dangereuse. Madame Rotary, mais la fée du logis, professeur, je crois que vous faites erreur. Madame Rotary, oui, j'ai lu un article qui disait que le professeur piqué au vif, non, non et non. L'amiante n'est pas dangereuse. L'amiral, vous n'êtes pas beau joueur. La fée du logis le grondant gentiment. Ce n'est pas bien, professeur. Le professeur, les tentacules de la pieuvre sont grands. Les alvéoles, petits. Les effluves, capiteux. L'albâtre est blanc. Les scolopendres sont vertes. L'ébène résistanteux et les stalactites. Petite merveilleuse, l'amiante n'est pas dangereuse pour la même raison que les ovules sont masculins. L'amiante est dangereux. Voilà pour situer un petit peu l'esprit de Gilbert Lafaille dans cette pièce. Mais aujourd'hui, ben on va avoir des textes, on va avoir des invités. Ici les studios, à vous les studios.
Studio, ah, bonjour Ariel. Donc je suis venu avec Patrick Denis et le texte de Philippe Forcioli.
C'est ça. Alors, toujours les poèmes à dire choisis par Daniel Gélin, suivi de quelques pensées de Pierre Perret.
Moi, je porte un texte écrit par moi-même sous une information sportive. Donc c'est l'histoire de la rivalité des équipes et l'histoire des supporters de football.
Laurent, pour ce deuxième samedi de chaque mois, avec une séquence, toujours 40 minutes, avec là, aujourd'hui, le luxe de invités. Alors, ils se sont répartis le temps. Il y a un éditeur, François Mocaer, pour les éditions Unicité. Et il y a l'une de ses auteurs, avec un E. Elle s'appelle Asiba O, H-O, avec le tréma. Non, pas le tréma, l'accent circonflexe, le chapeau un peu vietnamien. Voilà, nous avons ces deux invités. Alors, je poursuis, voilà. Je poursuis, et donc, pour commencer, eh bien, un programme où il y aura la poésie, il y aura la chanson, disons, poème chanté, on verra ça tout de suite. Et alors, je demande à François, on commence par l'éditeur ou son auteur? C'est vous qui choisissez.
À son auteur.
Ah ben voilà, ça c'est la galanterie. Voilà. Qui existe encore dans notre beau pays, hein? Donc d'abord, c'est Asiba O. Alors Asiba, poème et poème chanté. Tu es venu avec ta guitare, tu as eu le temps de l'accorder.
Oui, voilà. Ça vous dit, bonjour.
Alors, bonjour à toi, Asiba. On s'est rencontrés il y a quelque temps dans une galerie d'art et ça a flashé, voilà, comme ça. Et puis on s'est retrouvés un peu plus tard. Et puis, il fallait qu'on se retrouve, puisque voilà, j'ai appris tout ce que tu faisais. Je savais déjà que tu étais, que tu écrivais depuis un certain temps, et que tu es, et que tu te, que tu t'es remise en question d'ailleurs. Voilà, pour en fait, la remise en question, ça permet d'avancer. Voilà.
Exactement.
Et quand on te rencontre, on se dit bon, on la connaît pas, mais elle a quelque chose à dire, à exprimer. Alors, Assibao, poème, chanson, on a choisi, j'ai un peu choisi, pour l'antenne en direct, des formes brèves, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, on peut y aller déjà tout de suite. Et donc, on peut y aller.
Je vais commencer avec...
Oui. Ah oui, voilà.
Je vais commencer avec un poème chanté qui est extrait de mon recueil Femelle Grand Tixu de femmes, qui est un hommage à Sappho, la grande poète antique.
Alors on commence donc par l'Antiquité avec Assibao qui prend sa guitare et on l'écoute.
Sappho. Souffle sur ta bouche, logos étoilé, ta lyre érotique est un ange azuré, couché sur la grâce que tu vas envelopper de son et ta voix. Un cœur palpitant comme le bosquet sacré, quand le vent bat au passillon désespéré, les frissons doux parfumes de printemps les prés et les herbes en joie dansent sur toutes les couleurs de la beauté, des étoffes vives que ton âme a portées et le feu suave de ces corps désirés. L'amour si noir, tu adores Aphrodite, tes fièvres tressées, la part des plus belles couronnes de rosée, immortelle comme le lyrisme brodé, muse de tes dix doigts, caresse l'abîme et les terres enfumées, et l'écume de mer sur ton char fauché, dans les bras de l'errance, la lune remuée se souvient de toi.
Assibao. Alors j'ai appelé son nom pour les internautes, je le fais très souvent, comme ça on peut aller se renseigner, H-A-2-S-I-B-A, plus loin, H-O, accent circonflexe. C'est bien ça, Assibao.
Exactement.
Bon, comme ça on peut aller surfer.
Pour aller. De traditions,
oui,
ou de guerre, je dirais.
Pour aller te découvrir plus amplement, puisque voilà, chacun de mes invités, on a 20 petites minutes, on va faire vous concentrer. Et ça va donner, j'espère, envie aux auditeurs et aux éditrices d'aller, d'avoir encore plus envie d'aller à la découverte de tout ce que vous faites tous les deux en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Alors Assibao, ton parcours, ça c'est la chanson, les poèmes, l'écriture, ça date de très très longtemps. L'adolescence ?
La préadolescence, j'ai commencé à 12 ans.
Il y a eu un déclic pour toi, pour écrire, pour t'exprimer ?
J'ai l'impression d'être née poète. Et je me suis rendu compte assez récemment que ça doit certainement venir d'être de la tradition amazigh dont je suis issue. J'ai longtemps cru que c'était le collège, Baudelaire, les romantiques, Musset, Verlaine, le désenchantement. Et c'est depuis que je me suis remise à la poésie, en 2021, lors de la pandémie, que je me suis rendu compte que ça venait de... Du peuple kabyle, qui est un peuple de chanteurs et de poètes. Donc c'est un mélange un peu transgénérationnel et de mon histoire et de ma relation à la littérature depuis que je suis jeune.
Donc il y a eu quand même, depuis l'âge de 12 ans déjà.
Oui, j'ai commencé à 12 ans, ouais. Tranquillement. Ouais. J'ai écrit beaucoup adolescente et j'ai arrêté à 22 ans. J'ai boulé, déchiré mes poèmes parce que je considérais que l'art n'était pas une valeur marchande. C'était mon côté très libertaire en fait. Et je m'y suis remise pendant la pandémie en 2021.
La pandémie a été un déclencheur. Hein. J'ai beaucoup de créateurs qui avaient mis des projets dans les tiroirs et qui les ont sortis. Je pense à Sophie Delpont qui est venue nous voir et qui a fait 56 chansons. Elle les a faites, elle les a interprétées. C'était les grands classiques. Brassens, c'était la chanson. Mais sans la pandémie, elle n'aurait pas eu ce déclic, justement, cette audace, parce qu'il en faut aussi. Et puis, il y a quand même, aussi dans le monde du classique, j'écoute pas mal France Musique, beaucoup de pianistes, beaucoup d'instrumentistes, de compositeurs qui avaient des choses dans les tiroirs. La pandémie, cet inconnu, cette menace, a fait qu'il y a eu une sorte d'instinct, un instinct, mais vital, pour dire « on ouvre les tiroirs ». On déterre ce qu'on avait enterré et on le propose au plus grand nombre. On partage.
C'est ce que tu as fait. Un retour dans son cocon, ouais. Un retour en soi, un retour à la maison, un retour vraiment dans son intériorité la plus profonde. Moi, j'écrivais des chansons parce que c'est vrai que quand j'ai arrêté d'écrire des poèmes, j'avais un besoin d'écrire tout de même. Et depuis l'âge de 25 ans, j'écris des chansons, j'ai pléthore de chansons, j'en ai plein les tiroirs. Et avec des tentatives de faire des choses, finalement, là, j'ai décidé de me remettre à la chanson aujourd'hui. Et la chanson était juste une suspension pour me remettre, rentrer en poésie, retourner en poésie. Alors, je dirais pas ici que je suis entrée en religion. Je suis rentrée en poésie comme on entre en religion. Mais c'est pas. C'est religion au sens de religare en latin, de relier. C'est vraiment ça. Et donc, j'ai retrouvé mon berceau de poésie.
C'est déjà une belle.
Et j'ai rencontré François Mouquer grâce à deux amis poètes, Marie-Josée Salas de Ballesteros, Juan Alarson et Mona Gamalin, que je salue. Et que je remercie de m'avoir permis de rencontrer François Mocaer, qui est mon éditeur depuis un an maintenant.
Oui, Mona, que nous connaissons, les auditeurs, les auditrices la connaissent. Une femme, une Égyptienne de Paris, qui a vraiment réalisé beaucoup de choses. J'ai même assisté à la Maison de l'Amérique latine, avec des soirées mémorables autour de Garcia Marquez, entre autres, et d'autres soirées de poésie. C'est une femme, on peut dire d'exception.
Exceptionnelle.
Elle a, dans sa personnalité, et puis aussi dans son rapport au monde, elle a des choses à dire, et puis elle a des choses à partager. Et elle me dit, tu sais, j'ai un éditeur, une cité, voilà, elle se sent en liberté, voilà, elle se sent épaulée. Donc, je le dis parce que un éditeur doit être un allié, et bon, on entend ce qui se passe en ce moment avec une certaine très grosse affaire d'éditeurs. On voit la concentration également du monde de l'édition. On voit des soubresauts qu'on a peut-être rarement vécu. Et donc, un éditeur peut être l'allié, peut ne plus l'être, et parfois peut le redevenir. Hein. C'est vraiment les soubresauts. Donc là, c'est important de se sentir en confiance, déjà. Et donc, tu as cet ouvrage, Femelle quantique suivie de femme. Alors, femme, F-A, accent circonflexe. Elle aime bien les accents circonflexes.
Les accents circonflexes, comme on disait à l'école élémentaire, le petit chapeau chinois.
Voilà. Femme, F-A. M.E. Et puis donc, Assibao, préface de Jean-François Blavin aux éditions Unicité. Ça vient de sortir, hein, voilà. Et donc, des poèmes, avec aussi des signes, on dirait, des lettres, mais il y a plus que des lettres. Il y a une recherche graphique avec, c'est vraiment...
Des disques QR code, comme tu vois, je mets de la musique dans mes recueils, et ce sera toujours comme ça, avec un lien sur ma chaîne YouTube. Et là, par exemple, tu peux scanner la femme, une version ancienne, ou femelle, qui est un morceau un peu manifeste sur mon concept qui s'appelle le femalisme.
Oui. Alors on va écouter Asiba. Asiba maintenant, soit un poème, soit une chanson.
Je vais vous dire un poème.
On écoute Asiba.
Filtre de lumière. Filtre de lumière. Lorsque les étoiles descendent du palais de Circé et que les plaisirs s'échappent des Champs-Élysées, Psyché dort sa peau au soleil et la nuit est cosmétique. Sa nacelle de lui d'or, de toison dorée et d'ocre à lèvres enrobe le masque cosmique de Minerve d'un tour de magie dans un songe. Le regard d'Héros au fond du sillon plonge sans s'inquiéter de ne rien saisir de sa vision, de son orbite où le désir tombe dans la réalité vraie et se relève dans la réalité fausse de cette femelle quantique.
Ainsi barge. Oh. Et je vois François Mocaer qui est pensif.
Avec un
comme le penseur.
J'ai un tréma sur mon nom.
Ah oui, un tréma.
C'est breton.
Ah, donc, ah oui, ben voilà, voilà. Il faut, voilà. On fait un insert, puisque je voulais la réaction de François Mocaer. Bien voilà, vous avez des accents différents, mais apparemment très complémentaires, parce qu'ils se matérialisent avec ce livre, donc, Femelle quantique suivie de femme, par Asibao. Donc ça veut dire qu'il y a eu la rencontre et qu'il y a eu ça, comme on dit maintenant dans le langage des jeunes, ça a matché. D'ailleurs, ça n'existe pas du tout dans le dictionnaire. Hein. À moins que ça soit dans le dictionnaire et qu'on mette familier. Mmh. Voilà.
Je pense tout. Que le Robert va bientôt rentrer le mot.
Oui.
Pas le Larousse, mais le Robert.
Le Robert. Oui, oui. Voilà, parce que chaque éditeur a ses préférences. Hein.
Mais matcher, ça ne veut pas dire faire un match, jouer un match.
Non, bah non, bah non, bah non. Ça devait, un ça match devait. De... Ça aurait pu, mais là.
Tu te rends compte sur un réseau social pour. Voilà, c'est un match, quoi. Tu réponds à la personne qui t'a envoyé un message.
Voilà,
un
match, c'est ça, c'est cette correspondance. Alors, je vois de la couleur maintenant, parce que Asiba, elle a mis ses textes avec des couleurs différentes. Là, c'est très, très, très bien. Ça se repère facilement.
C'est lié au récital qui est dédié à ce recueil, parce que j'ai un récital que je compte reprendre à partir de la rentrée. Et c'est mon code couleur pour me mettre les différents mouvements, parce qu'il y a 4 mouvements dans le recueil qui sont les suivants, si tu permets que je puisse en parler. Ô viens à la lumière, œil tellurique et de fer, percé aux poches de mes vers, l'acoustique des flambeaux.
Voilà. 4 mouvements. Alors on peut dire une symphonie. Les marques de la symphonie, symphonie poétique. On peut dire ça aussi. Pourquoi peut-être. Pas Alors je vois quelque chose là, c'est pas tout à fait ce qu'on s'était dit pour que tu puisses nous interpréter des chansons ou des poèmes. Alors qu'est-ce que tu choisis peut-être un Onde Rebelle peut-être si tu le souhaites, voilà. Alors c'est un titre déjà qui m'a beaucoup plus à l'écoute, et le titre lui-même, parce que ça correspond à ce qu'on fait ici, hein, les ondes rebelles de Radio Libertaire, donc ça tombe très très bien. On écoute Asiba.
Merci. Onde rebelle, mon bras de fer, son souffre-foule, les battements de mes données, ad hoc de charges téméraires qui vont et viennent sur l'itinéraire de mes globules en ébullition. Au fond de ma pensée indocile, elle déboule comme un éclat de poudre souris à la défaite du canon. Là, mes rayons XX numérisent la trajectoire des longueurs d'onde émises. À chaque agitation des Ève insoumises.
Le silence.
Un peu vite, hein.
Le silence après Asibao. C'est pas simple. Voilà, donc poème, voilà, donc
il est poème militant.
L'auteur de tout ce qu'on va entendre encore, puisqu'on devrait encore entendre une ou deux, et on va voir si on a le temps. On regarde toujours le temps qui passe. une ou deux, encore deux chansons. Alors, Asiba, ce parcours en musique, ça vient parallèlement à une activité professionnelle qui soit, on va dire, comme tout le monde, alimentaire. Il y a d'autres...
Exactement.
Eh oui, il y a un parallèle.
Alors, tu voudrais que je parle de mon activité ?
Pas forcément.
Pas forcément.
Non. Juste dire
disons
que
c'est l'activité de ma sœur jumelle.
Bon, juste dire que tu as une activité.
Ma sœur jumelle est prof. Mmh. Au lycée, lettres, histoire et culture générale. D'ailleurs, elle vient de sortir d'une grosse période de correction de copies. Et sa sœur jumelle est poète. Donc, alors ça me permet d'allier les deux parce que j'ai du temps pour écrire, pour faire des événements, mais je dissocie les deux personnes. C'est pour ça que je ris et je m'amuse à dire que ma sœur jumelle est professeur.
Oui. Bon, c'est quand même aussi un univers de partage aussi. C'est un univers où tu découvres aussi la créativité des élèves.
Oui, exactement.
C'est une photographie de la société.
Et puis je suis tous les jours avec les mots. Je veux dire que les mots accompagnent mon quotidien. En lettres, c'est mon quotidien. Donc je ne quitte jamais la littérature.
Et il y a donc le côté créatif, justement, qui est là. Qui est... Quand on te voit, quand on te rencontre, on sent une personnalité qui a vraiment le besoin du partage. Et puis le besoin de s'exprimer, d'être présente au monde. Et puis aussi, la poésie, c'est un témoignage sur le monde aussi. C'est une transcription, c'est une perception, c'est une traduction, en tout cas, du monde que l'on perçoit. Chacun selon son prisme, bien sûr. Voilà,
c'est poésie, c'est création, alors quelle que soit la forme... de création, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à remettre en question la forme classique, l'alexandrin, le sonnet, et pourtant ce sont des formes poétiques qui doivent toujours avoir leur place. C'est vrai, je ne sais pas ce que François Moncaire peut-être peut nous en dire, mais en tant qu'éditeur, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont absolument pas éditer des poètes aujourd'hui qui écrivent en vers classique. Alors que ça a toute sa beauté, c'est un exercice.
C'est mon cas.
François.
Oui. Je n'ai fait François. Que deux livres en vers classique, parce que moi je pars du principe, pas nécessairement la vérité, mais que l'écriture doit s'inscrire dans son temps. Et surtout, les formes de poésie, si elles ne veulent pas mourir, doivent se renouveler, absolument. Donc on peut, il y a Jacques Reda qui écrit... Qui fait des alexandrins. Houellebecq fait de très beaux sonnets, mais il met le vocabulaire de son temps, il n'essaye pas de faire sens systématiquement, donc ce sont des sonnets modernes. Mais bien souvent, les auteurs qui m'envoient des sonnets ou des poésies en alexandrin, c'est une poésie trop référente au 19e siècle. Donc manque de culture poétique, c'est ce que je leur dis, il faut lire avant de publier. Donc voilà, tout simplement. Mais je fais des exceptions.
Mais il n'empêche que tu édites des auteurs qui ont des sonnets dans leur recueil. Il y a une ouverture.
Il y a une ouverture. Mais si un auteur m'appelle et me dit voilà, j'ai fait, je n'ai que de l'alexandrin, je ne m'intéresse pas trop.
Voilà. La poésie de. Avec son temps, la poésie de son temps, et il y a de quoi faire, c'est ce qu'on appelle les vers libres, et on peut dire que les vers ont besoin de liberté, surtout en ce moment, surtout. Asibao, est-ce que tu as encore une chanson ? Alors, je suis en train de voir...
Je peux faire le cantique du cantique ?
Le cantique.
Qui est un poème chanté.
Du cantique. Poème chanté, Asiba.
Chanté, parlé à la fois.
Avec sa guitare acoustique accordée.
Oui, plus ou moins, je pense. Hey. Le cantique. Du cantique. J'ai découpé l'univers
sur mon corps un lambeau d'étoiles primitives venues du ciel. Bohème de sa voûte sensuelle. Castéria fileuse d'astres, pour mes yeux rêveurs baigne sur l'océan des sonorités. Je vais là où l'écho caresse leurs mains nébuleuses, et la voix lactée d'ivresse met au vent leur beauté fugitive, et chaque arrosé à plein souffle leur intensité, échappée des territoires de l'empereur. Je chavire devant le courant de ces perséides bourdonnantes sous cette pluie de glace. Les mélodies enfantent mes vers et la nuit dissonante. Et ma lyre olympienne.
Et voilà.
Ainsi bas, ou en direct sur Radio Libertaire 89.4, l'émission Dessous de scène, créée et toujours pilotée par Nicolas Choquet, qui, voilà, qui découvre des répertoires bah, comme celui-ci, qui... alors, j'ai essayé de trouver une référence à ce que tu fais. La seule qui me soit venue à l'esprit, c'est un peu Brigitte Fontaine. Un peu.
Tiens. Ouais. C'est pas la première fois qu'on me le dit.
Ah bon, alors
j'ai
ça va.
J'ai une chanson qui s'appelle L'ivresse du ciel qui est sur YouTube.
Bon.
Et on m'a. Alors, ce sont des enregistrements faits assez rapidement. Ce ne sont pas de très grande qualité, mais ils existent. Et on m'a souvent dit que ce morceau faisait penser à Brigitte Fontaine, dans la voix, dans le timbre, dans une façon d'être. Alors, je te remercie parce que franchement, c'est un compliment. Je le prends vraiment comme un compliment. Je ne me compare pas du tout à Brigitte Fontaine, que j'adore, que je trouve une grande dame. D'ailleurs, Areski, son auteur-compositeur, compagnon de route, a quitté ce monde il y a une semaine. Et voilà, donc je salue Brigitte Fontaine et voilà, j'ai pensé beaucoup à lui. J'ai écouté son dernier album d'ailleurs assez récemment. Il a fait un dernier album l'été dernier qui était son album de revoir et qui est magnifique et que j'invite à écouter Long Courrier. Donc oui, Brigitte Fontaine, oui, alors... c'est bon, évidemment, Brigitte Fontaine a toute sa singularité, une carrière exceptionnelle. Je ne veux pas me comparer à elle, mais on me l'a dit et je le prends comme un très beau compliment. Quoi. Je dis, waouh,
bon. Voilà, j'ai eu la chance de la voir.
J'adorais la rencontrer.
Ouais, je l'ai vue sur scène il y a 20. Oh là là, beaucoup,
également.
Plus que 20 ans. Et j'ai vu dans la salle qui était pleine. Deux personnes qui sont sorties. Je me suis dit, ça va, s'il y en a que deux, tout va très bien. Parce que c'est quand même inclassable. Et c'est une histoire de la chanson. Un petit coup de chapeau à Pierre Barou, qui a beaucoup fait pour Brigitte Fontaine, justement, dans les marches. Alors, quand j'entends Assis Bao, il n'y a pas seulement le timbre de la voix, il y a aussi les mots. Les mots, je dirais... avec un sens souterrain qu'il faut aller chercher. Voilà, ça demande un effort. C'est pas la chanson facile, ça demande l'effort, la participation de l'auditeur. Ça pose des questions, et je trouve que c'est le rôle de la chanson.
Merci.
Alors, encore là. Alors là, oui, c'est une chanson qui commence par la chair aromatique. Ça m'avait bien plu, cette...
La femme ?
Oui, voilà. Bon.
C'est l'homme qui parle. C'est l'homme vertueux qui parle. Je suis mise à la place d'un homme vertueux. L'homme que je serais qui adresse un chant à sa damoiselle. Voilà. La femme, l'homme parle. On y va pour la femme ?
Oui, on va y aller. Le temps que tu te penches, que tu prennes la guitare... Et voilà, nous sommes en direct sur Radio Libertaire 89.4, émission Dessous de scène.
Tu es mon animal, ma part féminine, la chair aromatique de mon arbre de vie éternelle, comme le sommeil dans la nuit.
Dernière vibration de la corde pour écouter cette chanson, donc Asiba O. Alors Asiba, eh bien voilà, on va laisser la parole à ton éditeur, on est exactement dans les temps, mais avant, pendant que tu reposes ta guitare, en ce moment, à l'instant, à part ton éditeur vénéré qui est déjà sur le piédestal, est-ce qu'il y a une personne à qui tu penses là maintenant, à qui tu voudrais dire merci, une personne du passé, du présent, tout de suite, maintenant,
de manière spontanée?
Oui, spontanée, on est en direct.
J'irais merci la vie, merci papa, merci à François d'avoir permis à, j'irais ça, d'avoir, de m'avoir permis de mettre mon recueil dans les mains de mon père 10 jours avant qu'il ne meure l'année dernière. Merci, c'est ce que j'ai envie de dire. Bah, c'est très personnel.
Bah oui, là je ne m'attendais pas du tout à cette réponse parce que je ne connais pas beaucoup ta biographie, mais ça me touche beaucoup et je pense que ça va toucher les auditeurs pour très 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 longtemps, d'autant que nos émissions, eh bien, elles sont disponibles pendant un an. On a, voilà, depuis tant d'années cette chance sur Radio Libertaire, on peut podcaster partout dans le monde, on nous écoute en ce moment, on peut nous écouter partout dans le monde, donc voilà, je suis très touché par cette spontanéité, je l'ai appris. Et c'est vrai que je disais au début de cette émission, un éditeur ça accompagne, et là on peut dire que vraiment la mission a été parfaitement remplie. François Mocaër. Alors j'entendais ce nom par notre Mona dont on a parlé, qui me disait qu'elle se sentait vraiment bien, qu'elle se sentait épaulée. Et puis voilà, je me suis dit, bon, bah, je suis allé à plusieurs, j'ai vu notamment David et Napoli, je l'ai David vu aussi, Napoli. Voilà, je l'ai vu il y a quelques années. Mais pas encore beaucoup, beaucoup, c'est vrai qu'il faut des occasions pour se rencontrer. Et donc voilà, j'ai un petit peu vu ce qui se passait pour les éditions Unicité. Déjà, je trouve que avoir trouvé ce nom et que on ne l'ait pas trouvé avant toi, c'est quand même formidable, parce que un nom pareil qui veut dire tellement et qui en plus correspond à la mission en plus que tu accomplis, parce que je pense que les éditeurs indépendants qui ne sont pas dans l'industrie, je pense qu'ils accomplissent une mission, c'est-à-dire donner la parole et accompagner.
Tout à fait. Donc déjà je voudrais dire que ma maison d'édition, je l'ai créée en 2010 avec pour mission de publier de la poésie. Et puis quand on est éditeur, c'est surtout en fait un métier de rencontre. On fait des salons, on va dans les librairies, les auteurs vous présentent d'autres auteurs, et on rencontre des gens et on fait des livres qu'on aurait pensé ne pas pouvoir faire, ou même avoir envie de faire. Voilà. Je prends un exemple, je n'aime pas tellement les enfants, mais je fais des livres pour les enfants. Donc, mais j'aime bien les auteurs qui écrivent pour les enfants, c'est ce que je dis toujours. Donc, alors au fur et à mesure que je fais des livres, donc je rencontre des auteurs, et puis je fais des romans, des nouvelles, et puis l'idée m'est venue finalement, enfin c'est aussi des auteurs qui m'ont proposé de créer des collections. C'est-à-dire que j'ai à peu près une dizaine de directeurs de collections qui choisissent des livres à ma place. Je ne remets jamais en question leur choix. Et on avance comme ça. Donc, parce que moi, dans mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui peut se tenir à une ligne éditoriale. Ce n'est pas possible. Je suis quelqu'un de très dispersé. Déjà, quand j'étais tout petit, je mettais des Legos partout, je pouvais pas me construire. J'ai toujours été comme ça. Et puis plus on avance dans l'âge, plus on fait semblant que c'est pas vrai. Mais en fait, on change pas. Mais on fait semblant. Les adultes font semblant. C'est très bien. Ça peut pas être autrement quelque part. Donc voilà. Donc je suis toujours ce petit enfant de 5 ans. Et donc voilà. Et donc je continuais. Oui, ce que je voudrais dire aussi, ça c'est très important. On me dit, oui, tu as fait 10 ans, tu as fait 1400 livres, t'en as pas marre. Est-ce que ça doit être un métier de passion? Et là, je dis stop. Non. Je ne suis pas quelqu'un de passion. Je suis quelqu'un qui aime et qui se lève le matin et qui est content de se lever le matin pour faire des livres. La passion, c'est très bien, ça n'a qu'un temps. Il y a des éditeurs comme ça, j'en connais, qui ont duré 3 ans. C'était « Ah oh ouais, et puis voilà, ils sont essoufflés. Donc voilà, c'est fini. Donc en fait, moi c'est l'impression que quand je fais un livre, c'est toujours le premier en fait. Voilà.
Je pense que je vais réinviter François Mocaër pour qu'il nous fasse l'éditeur essoufflé.
Ah mais non, je peux
ça,
pas.
C'est
je
vraiment
pas.
Très très bien.
Oui,
non mais justement.
L'éditeur qui court.
qui court. Le passionné qui s'écroule.
Oui,
mais
non,
c'est pas
ah
le
non,
cas
pas,
de
non,
François Mocaër. Lui justement, François, c'est une autre catégorie.
Oui, parce qu'en plus, moi, la plus grande qualité que j'ai, les gens me disent c'est ton défaut, mais moi, ma plus grande qualité, c'est que je ne réfléchis pas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis action réflexion. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avance et que je ne peux pas m'empêcher, en fait, d'avancer. On ne peut pas. Quand on ne réfléchit pas, c'est là qu'on fait les choses. Bon, après, évidemment, quand on se prend un mur, on essaie de rectifier.
On bifurque. On bifurque.
On
bifurque. On
le casse.
Alors voilà, j'ai vu un peu tout ce qui se passe pour Unicité, les éditions Unicité. Des romans, des essais, de l'histoire. Là, il y a un bouquin sur Pétain à Laval.
Oui, je dis que c'est mon livre le plus sexy. Parce que c'est la période la plus sombre de notre histoire, simplement.
Oui. Ah, ouais. Du théâtre aussi.
Oui, aussi, oui. Oui, oui.
Et bien sûr, la poésie. Et une partie donc du fonds éditorial, une partie est consacrée. Oui, j'ai. revu ça l'autre jour à la spiritualité. J'ai vu des livres sur le bouddhisme et j'ai vu aussi un livre de Amma à Sainte-Thérèse. Alors, il y a une chanteuse qui est venue ici et qui est allée dans le sud pour rencontrer Amma. C'est une femme qui vient de l'Inde et qui a des disciples qui viennent la voir et qui font ces embrassades devenues légendaire, parce que j'aime pas trop le mot viral, mais légendaire, mais vraiment. Et donc, il y a cette part éditoriale. Et puis, j'ai vu qu'il y avait, alors là, la littérature japonaise avec les haïkus. Oui, ça m'intéresse. Et ça va intéresser beaucoup. J'ai vu aussi qu'il y avait le Québec. Alors là, livre sur Gaston Miron, grand ami, de Gilles Vigneault et de plein d'autres. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le titre. Le poète et le politique. Oui. Parce que nous savons, parfois moins, parfois beaucoup, que les deux sont quand même très liés, de toute façon. On a vu des poètes dont on a fracassé les mains, au Chili. On voit des poètes emprisonnés, pendus.
Il y a eu des poètes qui ont pris le pouvoir et qui n'ont pas été tendres aussi.
Ah, ça c'est intéressant. Tiens, on peut en parler là. Il y a un exemple.
L'Arbaton a publié... je pense, deux poètes qui ont été des dictateurs.
Dictateurs.
Oui, bien sûr. Donc, ils ont publié Tarek Aziz aussi, mais qui n'était pas lui. Je pense pas que c'était le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, mais qui est en prison d'ailleurs. Et je pense que ils l'ont regretté, mais bon, je pense pas que c'était quelqu'un de spécialement. Je pense pas que c'était un criminel de guerre, quoi. Voilà.
Alors, Gaston Miron. Il y a aussi une anthologie des poètes sud-américains par Joël Laloux. Et puis j'ai repéré un titre qui m'a beaucoup plu. Alors je ne connais pas Bruno Maville, mais le titre, Il a plu et tout lui.
Voilà. Exact.
Ça m'a beaucoup plu. Rien que déjà le titre, t'as dû craquer pour l'auteur. On prend. Et puis il y a quelqu'un qu'on connaît en commun. Mathias Vincenot, Poésie en Liberté, qui fait un travail exceptionnel. À la fois comme poète, je suis allé plusieurs fois le voir, et puis aussi s'il organise à la Sorbonne, parce que là, j'ai vu Enzo, qui était magistral, quoi, dans un tout autre registre, entre autres, et j'ai vu des très très belles choses là-bas à la Sorbonne. J'ai même vu chanter Hervé Villard, qui chantait du Marguerite Duras, qui chantait des grands classiques.
Evening Morning.
Voilà, moi c'était à la Sorbonne et c'était formidable.
Là, tout à fait, j'étais surpris.
Il a fait Caprice et Fini, mais c'est l'un des chanteurs, un peu comme Chamfort, qui a fait une sorte de ce que j'appelle une métamorphose extrêmement originale et de très grande qualité. Comme interprète, moi je suis allé le féliciter.
Il a lu des poèmes aussi une soirée au New Morning. J'étais surpris de. 83 ans, mais il a chanté une chanson à texte merveilleuse. C'était vraiment magnifique.
Alors François, comme le temps court trop vite, il nous reste très peu de temps. Voilà, on pourrait, évidemment, je voudrais te garder 2 heures. Tu as apporté des ouvrages. Je te laisse choisir en direct.
Je voudrais juste dire deux
François.
Assez rapidement.
Oui.
Moi je suis un éditeur qui publie beaucoup de livres. Et donc je publie aussi bien des auteurs qui publient chez Gallimard. Des auteurs qui me sont fidèles, qui publient ailleurs. Et je publie aussi des autistes. Voilà. Donc, et aussi, ça m'arrive de temps en temps, mais pas trop, des gens qui sont un peu dans le dénuement et pour qui mettre un livre au monde, c'est une manière d'exister au monde. Ça, c'est important. Ce n'est pas toujours des livres excellents, mais j'y tiens à ça. Mais c'est très peu de livres, mais quand même, je permets à des gens de sortir. D'exister par rapport au livre. Imaginez quelqu'un qui aurait ça dans sa famille, qui est mal vu, il dit voilà, j'ai sorti un livre, j'existe maintenant. Voilà. Donc, alors, je vais lire un poème d'Orlante Manin, qui est une poétesse allemande, une traductrice aussi, qui m'a fait des traductions. J'ai pris des poèmes courts. Alors, je ne lis pas aussi bien que Sylvain, disons. Moi, je suis cérébral. Vent perpétuel, air en mon corps. Balaye mes arborescences. Bourrasques élargissent l'horizon bleu. Je halète près des limbes. Mes côtes se dilatent dans un col, dans un envol plané. Chante. L'instant du monde me parcourt de surration. Je soupire de musique.
morte et vivante, toujours cachant les bourgeons, sont cousues ensemble les feuilles du livre.
Alors, un autre poème que tu peux...
Oh, je vais prendre le livre de Rudy.
Oui.
Alors, Rudy est un auteur autiste qui fait partie du Papotin. D'ailleurs, on le voit de temps en temps à cette émission.
C'est intéressant de faire un petit mot sur le Papotin, justement.
Oui. Voilà. Le Papotin est une revue écrite par des autistes qui bénéficie actuellement d'une grande ampleur médiatique, puisque des personnages célèbres sont invités une fois par mois. Donc même Macron, je crois, est allé, François Hollande, les présidents de la République, des chanteurs, des comédiens, etc. Donc, ils sont soumis à des questions sans filtre. Alors je vais vous lire un de ses poèmes, alors qui est basé beaucoup sur la répétition et l'obsession. On traverse notre vie jusqu'à la mort. On traverse l'espoir en espérant ça va mieux. On traverse l'amour par les épreuves difficiles ou pas. On traverse les quatre saisons comme une balle qui démarre. On traverse les épreuves dures avec courage et détermination. On traverse le temps qui passe vite. On traverse les heures qui passent vite. On traverse notre ego qui est le nôtre. On traverse la maladie avec la tristesse des autres. On traverse la terre en l'occupant. On traverse les émotions quand on a une épreuve. On traverse le pont pour rejoindre l'autre côté. Voilà.
François Mocaër, hein, qui lit les auteurs qui l'éditent. Voilà, c'était un peu le pari de cette émission en direct. Donc un troisième texte.
Voilà. Donc là, c'était un poète très confirmé, Gérard Emmanuel da Silva, dont j'ai pratiquement réédité l'œuvre.
Voilà. En plus, faire un travail de fond, de rééditer.
Ah oui, là, on a fait. Voilà, oui. Vraiment. Ça s'appelle Sans fin. Une histoire sans fin. Les flammes de la rébellion, les bains de sang avec le vent du désastre qui s'écoule, chute libre, au centre du ciel et de la terre, à l'heure du combat, le visage de l'âme survivante, le visage de l'amour insoumis, tu n'oublies rien, et le temps nous emporte au centre du silence et de la mort, une main ensanglantée de justice nous guide, toute l'histoire en un instant, notre mémoire, sans fin. Voilà.
Eh bien, en direct, je vais te demander un autre poème avant qu'on se quitte, parce que là, il y a une belle énergie qui se...
Je vais prendre... encore un poème de Rudy, parce que...
Voilà, on est vraiment en direct. Ce n'était pas prévu, mais vraiment le hasard. Il n'y a rien de plus beau que
le hasard. Un petit mot sur ce poème. Rudy, il a la faculté de se mettre à la place des autres. Il dit souvent des choses étonnantes. Je suis cette femme qui est battue. Je suis ce... Voilà, il est tout le monde, en fait. Et je pense que c'est son autisme qui... C'est intéressant, hein, parce qu'il voit le monde de manière différente. Et beaucoup plus englobante, et moins égocentrique que nous. Je suis celle qui attend un enfant. Je suis celle que personne ne remarque dans le trottoir. Je suis celle qui a vu la mort pendant les guerres. Je suis celle qui a vu du monde à sa naissance. Je suis celle qui est âgée. Je suis une bibliothèque vivante. Je suis celle qui séduit les garçons de la mauvaise graine. Je suis celle qui n'a pas d'âge quand je sonne à la porte. Je suis celle qui se cache pour fumer et les parents ne le savent pas. Je suis celle qui sonne à la porte de celui qui lui plaît. Je suis celle qui travaille dur pour son chef. Je suis celle qui a fait des rimes sans arrêt. Je suis celle qui protège notre planète.
Voilà. Merci François Mocaër. Je vais réappeler ton nom, donc Mocaër.
Qui veut dire marchand de cochons en breton.
Ah bon?
Alors ma mère disait négocier en porc. J'ai dit non, maman, non. Marchand de cochons.
Voilà. C'est drôle.
Il n'y a pas de négociant.
C'est négociant en mots maintenant. Voilà.
Ça fait sourire Nicolas dans sa barbe blanche de créateur de cette émission de Sous de scène. Voilà, eh ben, on a pu faire un tour hein, quand même, un double portrait, un auteur et son éditeur.
Merci
voilà.
Beaucoup.
Et donc, allez voir un peu, allez surfer. Donc, François Mocaër, édition Unicité. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux mots de la langue française.
Unicité.
Voilà. Et puis, pour Asiba, je vais lui souhaiter beaucoup d'élasticité.
Voilà. Merci, Laurent. Merci à Radio Liberté de son invitation.
Il est 16h29, on est pile poil dans les temps. Nicolas, merci. Et nos amis vont pouvoir compléter ce panorama poétique.
Passage des désirs. cœur du plaisir et dans le feu sacré. Pour vaincre les jours de grimaces, nous marchions la main dans la main, avec pudeur, avec audace, ou juste un mot, ou presque rien. Un mot suffisait à nous plaire. Il était dit, il était beau. Il me tardait de vous défaire. Vous étiez là comme un cadeau. On parlait peu de nos histoires. Elles habitaient nos silences. Nous déjeunions de nos mémoires, teintées de quelques confidences.
Reconnaissable, des arrangements très reconnaissables aussi par les quelques instruments. Areski Belkacem sur son dernier disque, et là, effectivement, on peut dire que c'est le dernier. Je me souviens que la première fois qu'Ariel est arrivé dans ce studio, c'était avec des textes de Monique, sa compagne. Puis il nous a présenté sa fille, Elsa, qui a présenté aussi ses propres textes. Puis il avait les textes de son propre père, Jean. Puis maintenant, on a droit aussi aux textes de Joël et son gendre. Bref, Ariel, t'es toute une famille à toi tout seul.
Ah là là, quelle histoire. Bon, on va commencer par Joël, place à l'Italie.
Oui, lequel que j'ai porté, c'est un texte de culture générale sur le football italien et précisément sur les supporters et sur trois équipes en général. En Italie, le football est considéré comme une véritable religion pour des millions de personnes. Les équipes connues sont nombreuses. Rome, Lazio, Naples, Turin, Bologna, Fiorentina, Gênes, Sampdoria, Parme, Provercelli, Atalanta, Verona, Cagliari, Vicenza, Venise, Udinese, Perugia, Casale, Novese, Vado. Mais il existe trois grandes équipes italiennes. Unies par leur accroche dans le nord-est de l'Italie, leur rayure verticale noire et d'une autre couleur, et surtout par leur incroyable trophée au niveau national, européen et mondial. L'AC Milan, connu comme les Diables Rouges Noirs de Milan, l'Inter, connu comme les Serpes Bleus Noirs de Milan, et la Juventus, connue comme la Zebra Blanche Noire de Turin. Mais si aujourd'hui, nous nous concentrons moins sur les victoires de ces trois équipes que sur l'histoire de leurs supporters et sur l'histoire de la rivalité entre ces trois clubs. Le derby milanese est le derby de football local opposant les deux principales équipes de Milan, l'Inter et l'AC Milan. Il est également connu familièrement sous le nom de Derby della Madonnina, en référence alla statua emblématique della Vierge Marie qui orne le Dôme de Milano, le Duomo de Milan. Historiquement, les supporters de l'Inter étaient issus de la bourgeoisie et de l'aristocratie milanaise, contrairement à ceux de l'AC Milan, majoritairement soutenus par les classes populaires et les prolétariats. D'ailleurs, les supporters de l'Inter surnommaient les supporters de l'AC Milan Cacciavi, qui signifie tournevis en milanais, précisément pour souligner l'origine ouvrière de la plupart de ces dernières. Les supporters de l'AC Milan, quant à eux, appelaient leur rival Bauscia, un terme de dialecte milanese signifiant fanfaronne, car les supporters de l'Inter appartenaient alors pour la plupart aux classes supérieures. Les supporters de l'Inter pouvaient souffrir la luxe de se rendre à San Siro en moto, Muturetta, un autre surnom donné aux supporters de l'Inter par les supporters de l'AC Milan. En revanche, les supporters de l'AC Milan étaient les tramvés, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient se rendre au stade qu'un transport en commun. Ces cartes entre les deux types de supporters se stoppa progressivement vers la fin des années 1960, coïncidant avec la reconfiguration de la structure socio-économique de l'Italie et de la Lombardie. De nombreux incidents graves ont eu lieu au cours des années 1970. En 1983, pour mettre fin aux violences régulières, les deux camps des supporters ont conclu un accord de non-belligérance. Les deux équipes se sont affrontées une fois en finale de la Coupe d'Italie, 1977, et trois fois en finale de la Supercoupe d'Italie, 2011, 2022 et 2024. Elles se sont également rencontrées plusieurs reprises en Ligue des Champions, en demi-finale en 2003, et quart de finale en 2005, et de nouveau en demi-finale en 2023. Le derby d'Italia est le nom communément donné au match de football opposé au club italien de l'Inter et de la Juventus. Se rencontre mais aux prises deux des équipes les plus populaires, les plus titrées et les plus emblématiques du sport italien, ainsi que celles qui affichent les revenus et les valeurs commerciales les plus élevées. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un derby entre deux équipes d'une même ville, le match entre ces deux est un classique, symbole d'une rivalité profondément ancrée chez les supporters du camp. L'espression derby d'Italia a été inventée en 1967 par Gianni Brera, le journaliste sportif italien le plus influente du XXe siècle, pour désigner la confrontation entre deux équipes qui, bien che basée dans deux villes et même régions différentes, étaient caractérisées par une profonde rivalité mutuelle, typique de ces défis stracittadines, appelés précisément derby. La rivalità entre Inter e Juventus si ravvie entre la fin des années 1990 e les années 2000, avec des batailles controverses pour les championnats italiens, comme celle de 1998, où l'Inter s'est vu refuser un penalty lors du match contre la Juventus en raison d'une faute de Marc Giuliano su Ronaldo, o celle de 2002, qui a culminé avec le défait de l'Inter le 5 mai au Stadio Olimpico de Rome contre la Lazio e la victoire de la Juventus du championnat, ou encore le scandale du Calciopoli en 2006, qui s'est soldé par la révocation des deux titres du championnat de la Juventus des deux années précédentes, la relégation de la Juventus en Serie B e l'attribution du championnat à l'Inter par défaut. Les deux équipes se sont également affrontées trois fois en finale de la Coupe d'Italie, 1959, 1965 et 2022, et deux fois en finale de la Supercoupe d'Italie, 2005 et 2021. La rivalité footballistique entre la Juventus et l'AC Milan se manifeste lors du match opposant les deux équipes les plus titrées et les plus prestigieuses d'Italie. Ces rencontres, mais également aux prises du des clubs comptant les plus de supporters, ainsi que les revenus et valeurs commerciales les plus élevés du pays. Même ici, il ne s'agit pas d'un derby en sens strict du terme, mais d'un classique, car il représente un match profondément ressenti par les supporters du camp en Serie A. Il a très souvent posé d'équipes luttantes pour les premières places du classement, parfois de manière décisive pour l'attribution du championnat italien. Et surtout pour la finale de la Ligue des Champions le 28 mai 2003 à Old Trafford de Manchester, remportée par l'AC Milan au tir au but. Le due equipe si sono également affrontate 5 fois in finale della Coupe d'Italie, 1942, 1973, 1990, 2016 e 2018, e 3 fois in finale della Supercoupe d'Italie, 2003, 2016 e 2018. Le match entre l'AC Milan, l'Inter e la Juventus sont souvent perçus comme le reflet de la rivalité, à la fois économique et politique, qui oppose les villes de Milan et Turin, les deux plus grandes villes du nord-est de l'Italie, et avec Gênes, les composantes du triangle industriel, la région socio-économique qui affiche les plus forts développements sportifs du pays. Cette rivalité est ailleurs perçue comme un défi entre certaines des familles les plus emblématiques de l'histoire politique et socio-économique italienne du XXe siècle. Silvio Berlusconi pour l'AC Milan, les Moratti, d'abord Angelo puis son fils Massimo pour l'Inter, et la famiglia Agnelli, Edoardo, Gianni, Umberto, Andrea pour la Juventus. Silvio Berlusconi, président historique de l'AC Milan, fut l'une des figures les plus marquantes de l'histoire italienne. Il fut premier ministre de la République italienne à quatre reprises, président des partis des sans-droits libéraux tels que Forza Italia et le Popolo della Libertà, est l'un des entrepreneurs les plus influents de tous les temps, avec la société Finivest. Il est également actif dans l'édition, Arnoldo Mondadori Editori, la télévision, Mediaset, la banque, Banca Mediolanum, les théâtres, Teatro Manzoni, le cinéma, Medusa, et le sport, d'abord la Semilan et puis le Monza. Angelo Moratti, puis son fils Massimo Moratti, en plus d'avoir été président de l'Inter, il était entrepreneur au sein de la société par action Saras, active dans le raffinage du pétrole et la production d'électricité. La famille Agnelli, outre son rôle de dirigeant de la Juventus, a marqué de son empreinte l'industrie automobile et manufacturière, avec des entreprises comme Fiat, Ferrari, Iveco et Stellantis. Plusieurs de ses membres ont été élus sénateurs au Parlement italien. Sur le plan politique, l'ultra de l'AC Milan n'ont jamais affiché des préférences marquées. Traditionnellement associés à la gauche, ils ont été rapprochés dans les droits plus récemment, sous la présidence de Silvio Berlusconi. Les groupes de supporters organisés de l'Inter sont majoritairement de droits, voire d'extrême droits. Selon un rapport de la police d'État de 2003, les supporters organisés de la Juventus étaient eux aussi majoritairement de droits. Les ultras de l'AC Milan et de l'Inter assistent au match à domicile de leur équipe au stade Giuseppe Meazza di San Siro à Milan. Les ultras de l'Inter se rassemblent dans la curva nord, au sein de groupes organisés tels que le Boysan, gli Ultras, Milano Nerazzurra, Vixings, Brianza Alcolica, Riducibili, Imbastisci, Squilibrati, All Fans, Nurkrov, Brigata 1908 et Warriors. Par le passé, on trouve également des groupes ultra comme Skins, Norcaus, Bulldogs, i Tori del Nord-Est e i Pitbulls. L'ultra de l'AC Milan, quant à eux, se rassemble dans la Curva Sud, sur un seul grand groupe organisé, la Curva Sud Milano, qui regroupe tous les anciens groupes ultra historiques de l'AC Milan, tels que Commandos Tigre, Fossa dei Leoni, Ultras, la Cava del Demonio, le Brigate Rossonere, l'Alternativa Rossonera, i Guerrieri Ultra Curva Sud Milano e i Leoni della Sud. Per fêter la vittoria d'un championnat italien o d'un titre e Ligue des Champions, les supporters de l'AC Milan et de l'Inter se rassemblent sur la Piazza Duomo à Milan. Les ultras de la Juventus, quant à eux, suivant les matchs à domicile de leur équipe au Juventus Stadium ou Allianz Stadium de Turin, dans la tribune sud, au sein de groupes tels que Drughi, Magenta, Ponente, Bravi Ragazzi, Vikings, Tradizione, Antichi Valori, Nucleo 1985 e Gruppo Marche. Par le passé, on trouve également des groupes comme Irriducibili, Fighters e Area Bianconera. Pour fêter la victoire d'un championnat italien d'un titre Ligue des Champions, les supporters se rassemblent sulla Piazza San Carlo e Piazza Castello a Turin. Dalle film Eccezionale Veramente, 1982, e Ça suit, Eccezionale Veramente, capitolo secondo me, 2006, tous deux réalisés par Carlo Vanzina, l'acteur Diego Battantuono incarne Donato Cavallo, fan de l'AC Milan, Franco Alfano, fan de l'Inter, e Felice Lapezza, di Tirzan, fan della Juventus. Le film Tifosi, réalisé par Neri Parenti en 1999, met également en scène un fan de l'AC Milan, de l'Inter et de la Juventus, ainsi qu'un fan de Napoli, de la Roma et de la Lazio. Thank you.
quelques mesures d'une tarentelle revue et corrigée par Ennio Morricone. La tarentelle, c'est vrai, c'est plus le sud de l'Italie, et il me semble que le nom de la danse vient de la danse de Saint-Guy donnée par les piqûres de tarentules. Tarentule, au fait, c'est masculin ou féminin? Allez, Ariel, Elsa, c'est à vous.
Bah, j'ai commencé par Patrick Denis. Alors, et la neige encore en blanc d'œuf sur le piano du premier plateau, cloque au soleil. L'œuf est là-haut, dans la stratosphère, à narguer ses banlieues. Tatouage en morsure de pneus sur la route, voyou gracie de la civilisation. La traversée des biches y a laissé des cœurs renversés. Cratère fulgineux, des feux de fagots, plaies qui cicatrisent lentement sous la caresse de la ouate blanche. Volutes de fumée bleue qui s'échappent de la pipe d'une cheminée à pâte, traces parfumées de l'homme. Pommes de pin plantées çà et là, pareilles à des obus réfractaires. Lièvres inquiets, sentinelles d'une guerre permanente. Désert vivifiant de l'hiver, quand un sang jaune irrigue les veines gonflées des torrents, le chameau d'un paquet de camels broute et scellé sur la dune blanche. Le beignet d'un pneu occulte de sa rondeur le mi-temps d'une clairière. Le vent psalmodie son vieux chant dans les bouleaux. Les baïonnettes velléitaires d'un champ de maïs s'entêtent à repousser l'inéluctable assaut de la mort blanche. Plume éparse qui souligne d'encre rouge la consommation nécessaire du crime. Petite musique des pas dans les cristaux, figurée dans une infinie succession de notes, noires, blanches, talons, pointes, sur la portée des chemins. Craquement de bois aux mains de milliers de goélettes immobiles. Patrick Denis.
Daniel Gela a sectionné le poème de Léon Paul Fargue. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Depuis, il y a toujours, suspendu dans mon front et qui me fait mal, délavé, raidi de salpêtre et souris, comme une toile d'araignée qui pend dans une cave, un vol de larmes toujours prêt à tomber sur mes yeux. Je n'ose plus remuer la joue. Le plus petit mouvement réflexe, le moindre tic, s'achève en larmes. Si j'oublie un instant ma douleur, tout à coup, au milieu d'une avenue, dans le souffle des arbres, dans la masse des rues, dans l'angoisse des gares, au bras d'un vieil ami qui parle avec douceur, ou d'une plainte lointaine, à l'appel d'un sifflet qui répand du froid sous des hangars, ou dans une odeur de cuisine, un soir qui rappelle un silence d'autrefois à table. Amené par la moindre chose ou touché comme d'un coup sec du doigt de Dieu sur ma cendre, elle ressuscite et dégaine et me transperce du coup mortel sorti de l'invisible bataille aussi fort que la catastrophe crève le tunnel, aussi lourd que la lame de fond se pétrit d'une mer étale, aussi haut que le volcan lance son cœur dans les étoiles. Je t'aurais donc laissé partir sans rien te rendre de tout ce que tu m'avais mis de toi dans le cœur. Et je t'avais lassé de moi, et tu m'as quitté. Et il a fallu cette nuit d'été pour que je comprenne. Pitié ! Moi qui voulais, je n'ai pas su. Pardon, à genoux, pardon. Que je m'écroule enfin, pauvre suaire qui s'éboule, ô pauvre sac d'outils dont la vie se débarrasse d'un coup d'épaule dans un coin. Ah, je vous vois, mes aimés, mon père, je te vois. Je te verrai toujours étendu sur ton lit, juste et pur devant le maître, comme au temps de ta jeunesse. Sache comme la barque amarrée dans le port, voile carguée, fanau éteint, avec ton sourire mystérieux, contraint, à jamais fixé, fier de ton secret, relevé de tout labeur, en proie à toutes les mains de lumière droite et durcie dans le plein jour, grisé par l'odeur de martyr des cierges, avec les fleurs qu'on avait coupées pour toi sur la terrasse. Tandis qu'une chanson de pauvre pleurait par-dessus le toit des ateliers dans une cour, que le bruit des pas pressés se heurtait et se trompait de toutes parts, et que les tambours de la mort ouvraient et fermaient les portes. Donc, ce poème est extrait du recueil Poèmes, Éternet Mémorier Patris, édition Gallimard.
Si j'étais une alouette, comme elle, je foncerais dans l'azur. Mais je ne descendrai plus sur la terre. Mais je ne redescendrai plus sur la terre. Là où les hommes sèment le blé, là où les hommes fauchent le blé, où l'on sème et l'on fauche, sans savoir pourquoi, sans savoir pourquoi, sans savoir pourquoi. Si j'étais une alouette,
Philippe Fortuoli, sur l'album Célébration de l'oiseau. Oiseau est d'ailleurs le mot de la langue française qui contient les cinq voyelles, qui commence par un O qu'on n'entend pas et qui finit par le son O qui n'est pas du tout à la lettre O. Dans 9 minutes sur Radio Libertaire, ça sera Bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation. Et dans l'immédiat, du Fortuoli justement, Ariel.
N'est-ce pas ? Madame la Lune, vous m'êtes une amie charmante, compagne de mes nuits, une sœur, une confidente, belle face d'argent, la promesse d'un beau temps. Mon monsieur le soleil, vous m'êtes un ami pareil, beau, doré, gros, joufflu, vous baladez au-dessus de la terre, ici on enterre la vie. On étouffe les enfants qui voudraient passer leur temps à rêver aux nuages et on les traite d'enfants passages à l'école, pardi, il y a même des cours de poésie. On leur dit que les poètes, c'est des gens particuliers. Il y a leur nom dans les livres, donc des gens très distingués. Ils rêvaient tout de même, mais toi, petit, fais tes problèmes. Moi, je crois que la poésie, ça ne se prend pas, ça se vit, ça se sent, ça se prend, ça se raconte aux amis. C'est le rêve au fond, c'est la grève, c'est non. C'est dire non au sentier qu'on voudrait te faire emprunter. C'est dire oui au soleil, à la lune, la liberté. C'est la fête à l'intérieur que tu prêtes aux gens de cœur. Madame la lune, bon, monsieur le soleil.
Ce ne sont pas mains de géants. Ce ne sont pas mains de géants. Ce ne sont pas mains de géants qui ont forgé nos chaînes, ni le crime. Elles sont des mains habituées à elles-mêmes, vides d'amour, vides du monde. Le commun des mortels ne les a pas serrées. Elles sont devenues aveugles, étrangères à tout ce qui n'est pas bêtement une proie. Leur plaisir s'assimile au feu nu du désert. Leurs 10 doigts multiplient des zéros dans les comptes qui ne mènent à rien qu'au fin fond des faillites. Et leur habileté les comble de néant. Ces mains sont à la poupe au lieu d'être à la proue, au crépuscule au lieu d'être à l'aube éclatante. Et divisant l'élan, annule tout espoir. Ce ne sont pas des mains condamnées de tout temps par la foule joyeuse qui descend du jour, où chacun pourrait être à tout jamais juste et rire de savoir qu'il n'est pas seul sur terre à vouloir se conduire en vertu de ses frères pour un bonheur unique où le rire est une loi. Il faut, entre nos mains, qui sont les plus nombreuses, broyer la mort idiote, abolir les mystères, construire la maison de naître et vivre heureux. Paul Éluard, merci.
C'était une petite ligne de Blanche Jean-Marie à la diction de Sous de Seine, magazine de créatures radiophoniques, et pour se bidonner avec la langue verte pour conclure, du Perret.
Oui. Il a les ongles aussi propres que la conscience d'un général. Il vaut mieux être riche et cruel que pauvre et charitable, sinon personne ne parle de vous. Il faut toujours battre son père pendant qu'il est chaud. Avant de parler, il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche de sa voisine. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert, l'estomac à genoux qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons, les rotules de grand-mère, c'est du beurre à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molaire, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Voir Denise et mourir. Où il y a Eugène, il n'y a pas de plaisir. Il ne faut jamais remettre à 2 mains ce qu'on peut faire à 4 mains. Quand on a une dent contre quelqu'un, il est inutile de mâcher ses mots. Il n'y a que le premier trépas qui coûte. Il vaut mieux mourir dans les bras d'une fille qui vous connaît bien que périr en face d'un type qu'on n'a jamais vu. Quand on monte sur ses grands chevaux, il n'est pas rare qu'on soit obligé de rentrer à pied.
Un tout petit. Je ressors mon livre. C'est Patrick Denis. Un tout, tout petit texte. Les coupes se révèlent aux profondeurs en taille au crâne des collines, crête de Huron. L'œil caméra d'une buse effectue son lent travelling et plonge en zoom avant sur la danse inconsciente d'un surmulot. L'angoisse monte à la cime des arbres en plainte longue et inutile. Patrick Denis.
Eh bien, ainsi va se terminer pour aujourd'hui Dessous de Seine, magazine de créatures radiophoniques. Comme je vous le disais, nous étions ensemble pour 180 minutes. 180 minutes, c'est le temps que 45 salauds remontent leur slip après avoir abusé du corps d'une femme ou d'un enfant. Dessous de Seine, dans quelques instants, ça devrait être Bulle de Rêve. Bulle de Rêve, la seule émission qui commence à 17h, ou plutôt 17h01 ou 17h02, le temps qu'ils arrivent, ça me permet de glisser. Un dernier petit texte proposé par Evelyne. Evelyne qui d'ailleurs la semaine prochaine proposera une émission théâtre en compagnie de Anne pour le spectacle Poésis, poésie du Moyen-Âge à aujourd'hui, déclamée à la cantonade.
Je manque de mots, et je manque de temps, et je manque d'audace. Je rêve, et je dévide au hasard mes images. J'ai mal vécu et mal appris à parler clair. Tout dire, les rochers, la route et les pavés. Et leurs passants, les champs et les bergers. Le duvet du printemps, la rouille de l'hiver. Le froid et la chaleur composant un seul fruit. Je veux montrer la foule et chaque homme en détail, avec ce qui l'anime et qui le désespère. et sous ses saisons d'homme, tout ce qui l'éclaire, son espoir et son sang, son histoire et sa peine. Je veux montrer la foule immense divisée, la foule cloisonnée comme en un cimetière, et la foule plus forte que son ombre impure, ayant rompu ses murs, ayant vaincu ses maîtres. La famille des mains, la famille des feuilles, et l'animal errant sans personnalité. Le fleuve et la rosée fécondants et fertiles, la justice debout, le bonheur bien planté. Le bonheur d'un enfant, saurais-je le détruire, de sa poupée ou de sa balle ou du beau temps? Et le bonheur d'un homme, aurais-je la vaillance de le dire selon sa femme et ses enfants? Saurais-je mettre en, au clair l'amour et ses raisons, sa tragédie de plomb, sa comédie de paille, les actes machinaux qui le font quotidien et les caresses qui le rendent éternel? Et pourrais-je jamais enchaîner la récolte à l'engrais comme on fait du bien à la beauté? Pourrais-je comparer le besoin au désir et l'ordre mécanique à l'ordre du plaisir? Pourrais-je assez de mots pour liquider la haine par la haine sous l'aile énorme des colères et montrer la victime écraser les bourreaux? Saurais-je colorer le mot révolution, l'or libre de l'aurore en des cieux, des yeux sûrs d'eux-mêmes? Rien n'est semblable, tout est neuf, tout est précieux. J'entends de petits mots devenir des adages. L'intelligence est simple, au-delà des souffrances. Paul Éluard. Un extrait de Tout dire.
Radio Libertaire 89,4 MHz, une seule adresse pour nous soutenir, ou d'autres si vous trouvez des moyens quand même, le 145 rue Amelot, la librairie du Monde Libertaire. J'avais quelques craintes, il était 17h01 et je n'apercevais toujours pas Alexis qui, tel, quand je fais des mots fléchés, moi je tombe sur paresseux, et j'ai comme définition du paresseux en deux lettres, soit l'AI, AI, soit l'UNO, U-N-A-U, et je me demande si c'est pas finalement une déformation de son... Non, il paraissait au soleil, mais il est arrivé, il m'a donné une clé USB avec un générique, c'est parti, bulle de rêve.
Thank you. Et oui, c'est comme ça qu'on se fait piéger. On se fait souvent piéger. C'est quand la lumière est rouge, voilà, c'est nous qui parlons. Bonjour à tout le monde, bulle de rêve. Je vais déjà dire bonjour, on va désannoncer ce que vous venez d'entendre. Pas évident à connaître, mais déjà je vais remercier donc Alice et Nicolas. Bonjour.
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 Qui sont là avec nous. On fait un petit coucou à Zoé si elle nous écoute. Et bien sûr à Marie-Pauline aussi qui est entre Cannes et Annecy. Donc voilà. Et on est super contents aujourd'hui parce qu'on a Simon Roubi. Bonjour Simon.
Bonjour.
Qui vient, on va parler avec lui de son long parcours. Voilà, si vous voulez regarder toujours la même chose, je vous dis, hein, c'est R-O-U-B-Y. Simon, c'est Simon. Et notamment réalisateur pour, on parle de long métrage, un peu plus d'Adama. Et puis voilà.